d'une femme. Alors, nous allons maintenant évoquer un autre film dans quelques instants. C'est un film qui passe toujours à Genève, au cinéma La Strada, un film de Danny Levy avec Maria Schrader, dans le rôle de Sylva. Sylva, une jeune femme polonaise, et le titre du film, c'est « I was on Mars », j'étais sur Mars. Alors, qu'est-ce que c'est que Mars ? Mars, c'est peut-être d'abord Sylva, qui est la martienne, dans la mesure où elle va débarquer dans un monde tellement différent pour elle. Et puis, c'est peut-être aussi le lieu où elle débarque qui est Mars. Et le lieu où elle débarque, en l'occurrence, eh bien, c'est New York. Alors Sylva est polonaise, comme je vous le disais, elle n'est pas trop gâtée physiquement par la nature. Elle débarque à New York sans parler un mot d'anglais. Quelques dollars dissimulés dans son collant, 2-3 fringues immondes dans sa valise, la voilà qui affronte la grande ville avec la détermination des innocents. Très vite, elle est dépouillée de ses maigres économies par un petit malfrat dont on ne sait pas très bien d'où il vient. Elle se met à vivre selon le système D. Elle dort dans la rue, se nourrit des restes trouvés sur les plateaux des fast-foods et traverse les ruelles glauques de New York sans que rien de grave ne lui arrive. Sa dérive aurait pu être sinistre ou misérabilis. Elle est au contraire d'une drôlerie redoutable. « I Was on Mars », eh bien, c'est le troisième film de Daniel Levy, balois, et le premier à être véritablement distribué en Suisse romande. On connaît bien le problème que vivent les réalisateurs suisses-allemands d'être distribués en Suisse romande, comme si la barrière de rejeté s'appliquait rudement au cinéma aussi. La Pologne en rêve, la moitié de la Pologne en parle. Sylva, elle, le fait. En cachette. Elle quitte son village pour s'enivrer de la splendeur et du luxe de l'Ouest. Avec une énorme valise et sans le moindre mot d'anglais, comme je vous le disais, elle se retrouve au cœur de New York City. Quelques journées lui suffisent pour laisser filer entre ses doigts le peu de dollars qu'elle possédait. En effet, Alio, un séducteur doublé d'un fainéant, se charge de lui piquer le reste. Sylva se retrouve sans rien. Elle porte au clou, tout ce qui en vaut la peine et elle découvre alors le revers du dollar. Elle dort dans la rue, se nourrit de reste, comme je vous le disais, et elle veut récupérer son argent. Mais pour cela, elle a tout son temps. Elle attend des journées entières jusqu'à ce qu'elle retrouve Alio. Elle le suit, elle le coince, elle le réduit à l'impuissance. Et il est trop tard quand elle s'aperçoit, eh bien, qu'elle s'est trompée de personne. Alors, « I Was on Mars », ce film, c'est un peu l'odyssée tragicomique d'une femme qui attire la poisse comme un aimant et pourtant possède le culot de s'y sentir à l'aise. Ce film, c'est un peu la façon de montrer comme la vengeance peut être douce, que ça vaut la peine de mentir et que le chemin qui mène au bonheur est plus court en voiture. New York joue ici un rôle décisif, bien évidemment. Cette ville haute en couleurs, chatoyante comme cette planète étrange qui promet beaucoup, mais tient tout autre chose. Comme je vous le disais, New York ne serait-elle pas Mars ? Alors Sylva ne se fait pas d'illusions, ni sur elle ni sur les autres. Elle n'est pas méfiante, mais on ne peut pas la décevoir. Elle n'est pas obsédée par le rêve d'une existence dorée, elle n'a jamais connue. Sylva est patiente, elle a le temps. Elle prend ce qu'elle peut obtenir. Avec un mélange de naïveté enfantine et d'astuce au jour le jour, elle réussit à survivre à New York, ce qui est, vous le conviendrez, pas une sinécure. Sylva ne parle pas beaucoup. Les mots, ça n'est pas son fort. Elle préfère écouter. Ce qui se passe en elle fait rarement surface. Sylva ne réagit pas comme on s'y attendrait. Elle ne joue pas le jeu des gagnants, des perdants, de la drague, de l'abandon. Les provocations, les offenses, cela la laisse apparemment indifférente. On ne perçoit que très rarement son charme et sa soif de vivre. Les autres la sous-estiment jusqu'au jour où la situation se renverse. Comment Sylva sort gagnante de toute cette tragédie ? Eh bien, cela demeure son secret. En tout cas, il ne s'agit pas là de chance, car de la chance, tout le monde peut en avoir. Au cinéma La Strada, où se montre actuellement le film I Was on Mars, je vous le rappelle, réalisé par le balois Daniel Lévy avec Maria Schroeder dans le rôle de Sylva, eh bien, on a eu la gentillesse de me fournir la retranscription d'une interview de Maria Schroeder qui s'exprime sur le personnage qu'elle interprète. Alors, je me fais un plaisir de vous le faire partager, puisqu'hélas, je n'ai pas rencontré Maria Schroeder. Alors, maintenant que tu es assise là, dit la personne qui interviewe Maria, en face de moi, je commence seulement à réaliser que tu es, dans le privé, totalement différente du personnage de Sylva. Et Sylva de répondre. En l'occurrence, Maria Schroeder, pardon. Au premier abord, c'est tout le contraire de moi. Sylva est sèche et cassante, elle est très calme et fait preuve d'un sang-froid étonnant. Moi, par contre, je suis agitée, colérique, je parle trop, je rends les autres fous. Sylva vit davantage en retrait, dans son fort intérieur. Elle se suffit à elle-même. On ne l'impressionne pas facilement et elle n'éprouve pas non plus le besoin de communiquer. Pour moi, tout ceci est contre nature, en tout cas jusqu'à présent. Les gens, je leur saute à la figure et je passe toujours d'un extrême à l'autre. Alors comment quelqu'un comme toi se retrouve avec un tel rôle ? Eh bien, normalement, cela est tout à fait exclu. Beaucoup de réalisateurs manquent d'imagination quant aux possibilités de métamorphose. La plupart du temps, on choisit l'acteur correspondant exactement au rôle sans prendre de risque. Moi, je représentais évidemment plutôt un risque. Mais heureusement, dans notre cas, rien ne s'est passé normalement, puisque je l'ai inventé moi aussi, Sylva, en écrivant le scénario avec Daniel Lévy. Dès le départ, ce rôle était pour moi comme un immense défi. Moi, j'avais aussi peur de Sylva, peur de la caricature, et de ne pas rentrer dans la peau du personnage parce qu'elle m'était trop étrangère. Le seul à ne pas être sceptique, c'était Dani. Il a vu Sylva en moi dès le début. L'amour ne rend donc pas toujours aveugle. Comment t'es-tu préparée à devenir Sylva ? Comment la métamorphose s'est-elle produite ? J'ai eu beaucoup de mal avec cette faculté de Sylva de ne pas réagir. Elle supporte tout ce qui lui arrive sans être toutefois une victime. Elle sait attendre. Moi, je riposte immédiatement. Je crois que le plus important, ce fut le moment où j'ai senti que j'avais quand même beaucoup en commun avec Sylva. C'était en Pologne. Je suis partie là-bas toute seule, sans connaître personne. Dans l'histoire de Sylva, il est beaucoup question de solitude, de mélancolie et de son expérience individuelle. Elle ne comprend pas un mot d'anglais et moi, pas un mot de polonais. Il y avait bien sûr au moins une grande différence. C'est que tu avais des devises en poche. Et oui, et on ne me les a pas piquées. J'ai entièrement habillé Sylva et de la veste en cuir au dentifrice, tout ce que j'ai emporté à New York pour tourner le film venait de Pologne. Je me suis prise de passion pour ces détails. Ils m'ont procuré de l'assurance pendant le tournage. As-tu eu le courage de t'en les dire pour Sylva ? C'est pas la même transformation que dans Pretty Woman, t'es d'accord quand même. Dani et moi, nous sommes tout de suite tombés d'accord sur son aspect physique. Si Sylva avait été une beauté, l'histoire se serait déroulée autrement. Elle aurait eu moins de problèmes. Au cinéma, la plupart des femmes sont belles et érotiques. Une femme comme Sylva, il faut d'abord s'y habituer. Elle a des failles et des aspérités, elle se bat avec d'autres armes. Sa forme, et sa force et sa beauté sont à l'intérieur. Et c'est là-dessus que nous avons misé. Et à ce prix-là, elle pouvait bien être laide. Tu n'es pas du tout coquette ? Et comment ? J'aimerais être une belle femme, dans la vie privée comme au cinéma. Mais dans le cas de Sylva, ma curiosité l'a emportée sur ma coquetterie.
for someone else's new vision. A small boy grows, and perhaps he has survived. Look now how he walks with peace on his hand. No longer a boy, not a man.
Toujours grâce au gentil projectionniste de la salle La Strada à Genève qui a eu l'amabilité de me faire des photocopies de deux interviews. Le premier est celui de Maria Schrader qui interprète le rôle de Silva dans I Was on Earth et le deuxième celui de Danny Lévy qui a réalisé ce film. Danny Lévy, réalisateur balois. Alors, il y a, je vous lis l'entretien qui a été réalisé par Dagmar Hoyer avec Danny Lévy. Dagmar Hoyer commence ainsi. Selon la presse, I Was on Mars résulte d'un projet à court terme, réalisé très vite. Qu'est-ce que tu en penses? Très vite, qu'est-ce que ça veut dire? Entre la première idée en décembre et le tournage, cela a quand même duré 5 mois. J'ai déjà lu que des contrats ont été passés entre cinéastes et producteurs au cours d'un dîner sur une serviette en papier. Pour nous, tout cela est malheureusement un peu plus pesant et compliqué. Nous avons travaillé l'année dernière à un grand projet plus conséquent, une histoire d'amour juive et un thriller politique s'intitulant « Meshuggah » et dont la moitié se passe à New York. Mais des projets pareils, cela demande du temps et l'attente, ça vous rend mélancolique. Nous voulions tourner et jouer et nous voulions connaître New York. Alors, nous avons fait I Was on Mars. Quelle impression ça fait de tourner à New York ? C'est drôle de tourner dans une ville où ont tourné Coppola, Scorsese et Woody Allen. Pour Charlie Kochnik et moi, l'important c'était surtout de trouver nos propres images. Les repérages c'était l'horreur. Où que tu ailles, tu vois des scènes de films. Nous sommes allés dans les coins les plus à l'écart, dans les bars, dans les hôtels les plus sordides. Il n'y a pas un endroit à Manhattan où l'on n'ait pas tourné au moins un bout de film, où l'on ne retrouve pas les traces de De Niro ou d'Al Pacino. Et les prix sont à l'avenant. Il n'est pas inhabituel qu'une telle boîte en ruine exige 10 000 dollars par jour pour qu'on puisse venir tourner quelques images dans son lieu. Les majors, les grandes compagnies payent ça sans sourciller. Eh bien, nous disposions de la même somme pour l'ensemble de nos 50 points de tournage. Comment cela a pu marcher quand même alors? Ou bien avec le schmutzing, comme disent les Américains, ou bien en tournant dans les faubourgs. Ce qui est fou d'un autre côté, c'est que tu as exactement les mêmes problèmes normaux et quotidiens que tu aurais dans une autre ville. À New York, sur leur tournage, on doit aussi faire le café avec de l'eau. Mais à New York, New York a sûrement ses propres lois. Comment vous êtes-vous débrouillé avec les syndicats, par exemple ? La situation était tendue parce que les major companies d'Hollywood boycottaient New York comme lieu de tournage en raison des trafics trop élevé. Et cela justement du fait des syndicats. À cause de ça, il y avait un chômage énorme parmi les techniciens du cinéma. Les syndicats étaient prêts à tout faire, même pour une production au plus low budget qui soit, au plus bas budget. Mais on a obtenu une bonne négociation. Ce qui était beaucoup plus compliqué, c'était les effets de la guerre du Golfe. Par suite du renforcement des mesures de sécurité, il était pratiquement impossible de négocier avec les aéroports. Et qui s'en est chargé pour vous ? Nous avons eu beaucoup de chance. Nous sommes vraiment tombés sur les gens qu'il fallait. Je connaissais une production suisse. Ils nous ont mis en relation avec Balthazar Pictures, qui venait de terminer Johnny Suede, qui a gagné le Léopard d'Or à Locarno en 1991. La production exécutive était assurée par Good Machine. Ce sont deux jeunes producteurs en train de devenir célèbres à New York, avec des productions indépendantes plus ou moins importantes, et qui s'y connaissent parfaitement en ce qu'ils appellent « gorilla filmmaking », c'est-à-dire en faire du cinéma comme un gorille. Hein, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, c'est tourner avec peu d'argent, le plus sérieusement possible et à la limite de la légalité, rapidement et discrètement si besoin est, sans permis. Mais ils ne se voient probablement pas sous cet angle-là. Ils ont réalisé I Was on Mars avec beaucoup de professionnalisme et une équipe très engagée. Quand on voit le film, on se demande vraiment comment il a pu être réalisé avec aussi peu d'argent. Oui, mais je ne voudrais pas que cette idée se propage. De telles productions au dumping se font dépendre de votre propre énergie et des salaires des membres de l'équipe. Moi, j'en ai aussi assez de ces lamentations au sujet de l'argent. Je veux pouvoir faire tranquillement de bons films en ayant le temps. Eh bien, C'est bien ce qui est coûteux. Mais en fait, après coup, la question du budget n'est pas importante. Un film doit faire ses preuves par lui-même. L'argent permet évidemment d'emballer le film de manière plus séduisante, qu'il s'agisse de son Dolby, des stars ou du bon matériel publicitaire. Mais on spécule souvent là-dessus pour avoir le public au bluff et malheureusement, ça marche. Hours on Mars représente un grand pas, non seulement hors d'Allemagne, mais également loin de tes premiers films autobiographiques. Que s'est-il passé ? Je ne passe pas mon temps à regarder dans mon slip. Le sujet, on l'a pratiquement trouvé sur le pas de porte. Le mur est tombé, le mur de Berlin, l'Est fait faillite, l'Ouest triomphe, tout cela me concerne de près. On ne se contente pas de s'emparer des lenders et de tout acheter en bloc, mais on décrète que tout ce qui a jamais été pensé ou tenté là-bas n'est qu'absurdité. Et cela me scandalise. Tous les regards avides sont braqués sur le luxe de l'Ouest comme si rien d'autre n'existait. « I was on Mars » est une déclaration d'amour aux gens comme Silva, à la simplicité et à la droiture, à la mélancolie et à l'honnêteté. Silva a pourtant le même rêve que des milliers de gens. Elle part un beau jour dans le pays de ses espoirs, New York comme symbole d'un univers qui promet tout mais ne tient que le reste. Bien sûr que ce n'est pas ce paradis New York. Ceux qui n'ont pas d'argent sont pris au piège. Alors, ton film, un règlement de compte avec l'Ouest ? Peut-être, avec son arrogance, je pense plutôt. Tu montres New York comme une ville sale et pourrie. Je trouve que ton film baigne dans la sinistrose. New York est encore bien plus délabré qu'on ne pourra jamais le montrer. Les problèmes sociaux vont s'aggravant et on ne peut plus les escamoter depuis longtemps. D'un autre côté, le Midtown compte une quarantaine d'immeubles où il y a tellement d'argent qu'on en attrape la nausée. J'ai essayé de montrer les deux du point de vue de Silva. De ce fait, I Was on Mars est beaucoup plus sérieux que tes deux autres films. J'ai toujours été sérieux, même sous le comique superficiel. Pour moi, Silva est très comique avec son calme et son entêtement à toute épreuve. C'est une aimable teigne. Mes films traitent toujours du désir d'aimer. Ce désir est présent aussi dans I Was on Mars, mais peut-être encore plus nu et désespéré. Ce qui est véritablement tragique, c'est que les trois n'arrivent pas à se rejoindre. Il y a naturellement des raisons pour cela, mais c'est au spectateur de les trouver. C'était I Was on Mars, une interview de Danny Lévy réalisée par Dagmar Hoyer et tout à l'heure une interview de Maria Schrader qui joue le rôle de Silva dans ce film que vous pouvez voir au cinéma La Strada à Genève. Thank you. c'est Jerry Allen et son piano dynamique qui nous accompagnent pendant ce deuxième film et le récit de deux autres films dont j'aimerais vous parler très très brièvement. Le troisième film que vous trouvez aussi dans les salles de cinéma à Genève, c'est un film qui s'appelle JF partagerait appartement, jeune fille partagerait appartement, film réalisé par Barbette Schroeder, que l'on avait connu dans le film par exemple More il y a fort longtemps. Eh bien, jeune fille partagerait appartement et l'histoire d'une charmante jeune femme, Alison, qui est jouée par Bridget Fonda, la fille de Peter Fonda. Et cette jeune femme met une petite annonce pour partager son appartement. Se présente une autre charmante jeune femme, Heather, qui est jouée par Jennifer Jason Leigh. Et elles pourraient devenir les meilleures amies du monde si Heather ne manifestait d'inquiétants signes de schizophrénie. La voilà qui séduit le fiancé, qui défenestre le chiot, qui se met à tuer. Alors, ce qu'en pense Antoine Duplan dans l'hebdo, eh bien, parce que je n'ai pas vu le film moi-même, les deux actrices sont excellentes, dit-il, mais au lieu d'explorer le malaise que suscite le changement de personnalité de Hedra, Barbette Schroeder se contente de signer un honnête thriller sur le thème bien américain de l'intrusion. Plutôt que de jouer de l'ambiguïté des miroirs brisés, il entraîne ses héroïnes dans les caves de l'immeuble où se résout tout à coups de couteau. Alors, faut-il se demander si Barbette Schroeder a perdu son âme au contact de l'Amérique? C'est une question que pose Antoine Duplan à propos de « Jeune fille partagerait appartement ». Jeune fille partagerait appartement que vous pouvez voir au cinéma Les Scala, puisqu'il y a plusieurs Scala, à Genève. Et puis, il y a un autre film dont j'aimerais vous parler. Je ne sais pas non plus ce qu'il va donner. Je ne l'ai pas vu, mais vous ne pouvez pas l'avoir vu non plus, puisqu'il sera montré seulement ce soir, mercredi 30 septembre, sur la télévision suisse romande. Et ce film a pour titre « Sandra, c'est la vie ». L'histoire d'une femme, et d'une femme particulière, puisque Sandra est trisomique. Alors, la télévision suisse romande a lancé une collection qu'elle a intitulée « Mélo Mélo ». Il s'agit de 6 films qu'elle a commandés à des réalisateurs sur le thème de l'histoire d'un enfant aux prises avec un événement dramatique qui bouleverse sa vie et le précipite dans l'univers brutal des passions adultes. Alors, la télévision demande que soient mis en scène des situations et des personnages carrés, des sentiments à outrance et surtout de l'émotion. Eh bien, voilà les règles du jeu, que le réalisateur n'est pas toujours perdant. Et Sandra, c'est la vie, c'est Dominique Ottenin-Girard qui l'a réalisé et qui essayera de nous prouver que ces contraintes ne sont pas si difficiles à surmonter et que l'on peut en jouer. Son personnage, en fait, c'est que son personnage principal, donc, qui est Lisa Fusco, cette jeune femme trisomique, peut déployer une émotivité sans retenue et surtout sans exagération. Sandra est en effet, donc je vous le disais, une adolescente trisomique dont l'amour inconditionnel pour autrui est déçu à un moment donné. Un seul personnage va pouvoir dépasser les apparences et véritablement la comprendre, c'est Julien, un peintre, interprété par Jean-Philippe Ecoffet. Et comme celui-ci trouve dans l'inspiration dans le visage de Sandra, Ottenin-Girard, derrière sa caméra toujours très mobile, déniche la beauté dans la vérité des expressions de sa comédienne. On oublie alors les conventions du mélo, il ne reste qu'un regard, et c'est rare. Lisa Fusco, cette adolescente trisomique, c'est la sœur de l'épouse d'Ottenin-Girard, qui elle-même a écrit le scénario de ce film, Sandra, c'est la vie, montré ce soir sur la télévision suisse romande, ce soir mercredi 30 septembre à 20h30. Thank you.
semblant d'y croire. T'as-le dans ta mémoire. Au fond du gouffre sommaire, diamant noir qui se joue d'un miroir. Aux abords de la ville, où tu rêves de tranquille, de calme et de silence, d'amour et de présence, de tendresse, de patience. Va jusqu'au bout, fais pas semblant d'y croire. Sauve-toi des dortoirs où chacun souffre son cauchemar dans son jeu de miroir. Et la peur essentielle devient sacrificielle. Il est sans des lambeaux de pouvoir et d'égo. Le monde fou, désespoir dans l'horizon d'espoir, mais tout au bout c'est diamant noir qui se joue d'un miroir. L'amour est difficile et nous sommes d'ainsi. Va jusqu'au bout, semblant d'y croire. Taille-le dans ta mémoire. Au fond de gouffre, diamant noir qui se joue d'un miroir. L'amour est difficile et nous sommes dans une. Va jusqu'au bout.
Et avec le changement de l'heure, le changement de musicienne, et c'est Barbara qui nous emmène pour cette dernière demi-heure dans Remue-Ménage.